journal avec vous, Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir à tous. Des dizaines de milliers de Biélorusses défilent encore dans les rues de Minsk aujourd'hui, alors que le pouvoir a tenté une démonstration de force tout à l'heure avec une contre-manifestation. Peu de monde, mais un Alexandre Loukachenko déterminé à ne rien céder, vous l'entendrez. C'est quand il n'y a pas de justice que l'esprit de vengeance peut revenir, des propos signés Benoît de Saint-Marc, président de l'association des victimes du terrorisme. Il réagit à la libération de talibans, dont certains assassins de Français. Le coronavirus en France, les indicateurs ne sont pas bons. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, se veut rassurant. Dans ce journal encore, une rave party interdite en Meurthe-et-Moselle. La déception de Thibaut Pinot, deuxième du critérium du Dauphiné aujourd'hui. Et puis on vous emmène à la découverte de la bulle de la NBA aux États-Unis. Point route et point météo, ce sera à la fin du journal.
France Inter.
On avait cru à un apaisement en fin de semaine en Biélorussie, mais la tension est remontée d'un cran, non pas dans la répression, mais dans le ton et les menaces. Confronté à la plus grande vague de contestation depuis son arrivée au pouvoir en 1994, Alexandre Loukachenko en a appelé hier à la Russie, son allié. Le Kremlin se dit prêt à envoyer, si nécessaire, une assistance militaire. D'où sans doute cette tentative de démonstration de force aujourd'hui de l'homme fort de Biélorussie. Il s'est adressé à ses partisans à Minsk lors d'une manifestation pro-pouvoir relativement modeste et qui tranche avec les grands rassemblements de l'opposition de ces derniers jours. En tout cas, Éric Bégala, l'heure ne semble vraiment pas au compromis.
Visiblement très mal à l'aise, essuyant même parfois une larme, Alexandre Loukachenko a reproché aux Biélorusses de ne pas l'avoir reconnu à sa juste valeur. Il a également averti des risques d'une agression militaire des pays de l'OTAN. Discours absolument décousu, sans argumentaire. Le président sortant a juste confirmé qu'il était hors de question d'organiser une nouvelle élection présidentielle. La Lituanie, la Lettonie, la Pologne et malheureusement même notre chère Ukraine, tous nous ordonnent de faire de nouvelles élections. Et si nous sommes conduits à faire cela, nous partirons en vrille et nous ne nous en sortirons pas. En l'occurrence, Loukachenko a probablement parfaitement raison. Un nouveau scrutin ne lui laisserait pas la moindre chance. Un sondage sorti des urnes, réalisé la semaine dernière par l'agence russe RIA Novosti, mais publié seulement hier, donnait Alexandre Loukachenko très largement battu dimanche dernier, avec seulement 3% des suffrages, très loin des 80% que la commission électorale lui a finalement attribué et auxquels personne ne croit. Alexandre Loukachenko a encore pu cet après-midi se rendre compte de sa popularité effective. Moins de 3000 manifestants s'étaient déplacés ce matin pour le soutenir. Ils sont depuis 14 heures plusieurs dizaines de milliers, peut-être 100 000, voire davantage à Minsk et dans le pays, tous à défiler contre lui. C'est probablement la manifestation la plus importante qu'ait jamais connue le pays.
Et Éric Bégala pour France Inter. Et ce soir, l'OTAN dément avoir renforcé sa présence militaire dans la région, comme l'avait assuré un peu plus tôt Alexandre Loukachenko. La contestation aussi en Thaïlande, le mouvement pro-démocratie a réuni quelques 10 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une réforme de la monarchie. C'est une première depuis 2004. Paris dénonce la libération de plusieurs talibans considérés comme des terroristes et relâchés depuis vendredi par le gouvernement afghan. Ces libérations, 400 au total, étaient la condition des pourparlers de paix qui ont commencé aujourd'hui au Qatar entre Kaboul et les insurgés. Or, parmi ces anciens prisonniers, il y a l'homme qui a tué 5 soldats français en 2012, mais aussi les deux assassins de Bettina Gualard en 2003, une Française de 29 ans en mission pour les Nations Unies dans le pays. Alors pour Guillaume de Saint-Marc, qui a créé l'association française des victimes du terrorisme, ces libérations, eh bien, c'est la double peine.
C'est une nouvelle qui nous choque en tant que victime du terrorisme. Cette libération est vue comme vraiment un affront d'une part et un danger supplémentaire. C'est horrible pour des victimes de voir que ceux qui les ont frappés sont à nouveau dans la nature, peuvent revenir à l'endroit où vous vivez et peuvent cohabiter. De façon générale, là, on déroge aux principes fondamentaux qui est que justice avant tout, puisque pour des raisons de réelle politique, il va y avoir la libération de personnes qui ont du sang sur les mains et qui sont loin d'avoir abandonné leurs illusions. Et c'est une insulte qu'il y a des victimes françaises qui sont concernées, qui sont méprisées en tant que victimes civiles de guerre. Tout ça n'augure pas un retour à la paix et un retour à la sérénité en Afghanistan. Il ne s'agit pas d'un esprit de vengeance, mais justement, c'est quand il n'y a pas de justice que l'esprit de vengeance peut revenir.
Un des propos recueillis par Margot Sieffer. De la paix en Afghanistan à celle au Proche-Orient, 3 jours après l'annonce d'un accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui avec Mahmoud Abbas. Il indique sur Twitter avoir réaffirmé à son homologue palestinien palestinien que la reprise des négociations de paix pour une solution juste restait pour lui une priorité. Alors que le ministre des Outre-mer, lui, est à l'île Maurice aujourd'hui, Sébastien Lecornu a annoncé l'envoi de 3 experts français anti-pollution pour lutter contre la marée noire qui a atteint l'île la semaine dernière. Il n'exclut pas l'arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur les côtes de la Réunion voisine. Le FBI américain en renfort au Liban. Une équipe a rejoint ce week-end à Beyrouth les enquêteurs libanais mais aussi français après la double explosion du 4 août dernier. Les autorités avaient promis une commission d'enquête sur 4 jours pour déterminer les responsabilités, mais le délai était visiblement irréaliste. L'enquête prendra du temps, a averti hier Michel Aoun, le président libanais, dans un entretien à nos confrères de BFM TV. Ce drame a fait 170 morts, 6500 blessés et d'immenses dégâts dans la capitale. Dégâts notamment dans le secteur hospitalier. Reportage dans l'un des 4 grands hôpitaux dévastés par la déflagration. L'hôpital Saint-Georges avec Aurélien Colli.
L'hôpital Saint-Georges était l'un des plus réputés de Beyrouth. Aujourd'hui, le bâtiment de 8 étages est défiguré. À l'extérieur, plus aucune vitre et à l'intérieur, tout est dévasté. Le docteur Al-Hacham était dans son département de cancérologie lors de l'explosion.
Tout d'un coup, on voit les gens, les visiteurs, les patients en train de saigner, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, infirmières, tous blessés et soit en train d'aider des gens à évacuer en dehors, soit en train de faire des sutures. C'est un vrai apocalypse.
11 morts, dont 4 infirmières, 350 patients évacués en urgence et des centaines de blessés qui n'ont pas pu être pris en charge. Une soirée de désolation et de destruction, résume le directeur de l'hôpital, le docteur Némé.
On a perdu 75% à peu près de tout ce qui est matériel médical ou bien non médical, tel que les lits, les chaises et tout ça.
Impossible encore d'évaluer le coût des dégâts, mais il se chiffre en millions de dollars. Et il y aura aussi le coût humain dans le personnel, souligne le docteur Al-Hacham.
Maintenant, on réalise ce qu'on a vu, toutes les images, comment gérer pour pouvoir continuer. Moi et mes collègues, c'est quelque chose qu'on discute presque tous les jours.
Pour se projeter dans l'avenir, l'hôpital Saint-Georges doit rouvrir rapidement, insiste la direction. Mais il faudra un an et de l'aide internationale pour refaire tout l'hôpital. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Et c'est un reportage à retrouver sur franceinter.fr. À l'étranger encore en bref, l'Italie ferme ses discothèques et impose le masque le soir en public. Face à une recrudescence de l'épidémie dans le pays, le décret prendra effet lundi. Et en France, faut-il s'inquiéter du rebond des contaminations? La barre des 3000 cas quotidiens est dépassée, 3300 même hier en 24 heures. C'est le plus haut niveau depuis le début du déconfinement. Il y a aussi une légère hausse des hospitalisations. Les autorités se montrent de plus en plus strictes. Le port obligatoire du masque notamment se généralise dans plusieurs villes des Bouches-du-Rhône, dont Marseille, depuis ce matin par exemple. Et le gouvernement compte l'imposer en entreprise dès la fin août. C'est ce qu'a indiqué la ministre du Travail ce dimanche à 3 jours d'une réunion avec les partenaires sociaux. La menace d'une deuxième vague n'est pas exclue, mais pas de quoi être alarmiste pour autant, estime Frédéric Valtoux, c'est le président de la Fédération hospitalière de France. Il est avec Jules de Kiss.
Les chiffres augmentent, mais on est dans des proportions en volume qui reste quand même faible par rapport à ce qu'on a connu lors de la période même qui a précédé le confinement ou pendant le confinement, c'est-à-dire au pic de cette épidémie au printemps. Donc on est sur des niveaux qui ne sont pas encore des niveaux d'alerte, qui sont des niveaux de vigilance et les mesures qui sont prises de port du masque dans les différentes villes sont faites pour effectivement essayer d'anticiper et d'éviter la trop grande fréquentation, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas cette vague qui arriverait jusqu'à l'hôpital, cette vague de patients qui arriverait jusqu'à l'hôpital. Lorsque, au plus fort de l'épidémie, on avait jusqu'à 7000 patients dans les services de réanimation, c'était en très grande majorité des patients très âgés, même le quatrième âge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres, les spécialistes mettent plutôt en avant que les personnes détectées positives au Covid sont plutôt des gens plus jeunes qui ont moins de 40 ans.
Et pour illustrer cette inégalité en quelque sorte face au coronavirus, en Meurthe-et-Moselle, on apprend que 9 résidents d'un EHPAD sont morts cette semaine après avoir été infectés. L'établissement situé au Sablon de Pulnau avait été reconfiné la semaine dernière. Et dans le même temps, malgré les restrictions sanitaires, malgré aussi un arrêté d'interdiction préfectorale, quelques 500 jeunes se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour une rave party près de Toul, dans ce même département de Meurthe-et-Moselle. La fête est désormais terminée et les policiers ont saisi le matériel de Sono. Un deuxième agent de sécurité agressé à Brest en 2 jours pour avoir demandé à un client de porter un masque contre le coronavirus. Là, ce n'était pas dans un bar, mais dans un hypermarché. Ça s'est passé hier soir. L'agresseur s'en est aussi pris au directeur du magasin. Interpellé, il a été placé en garde à vue. L'automobiliste soupçonné d'avoir mortellement renversé un cycliste mercredi à Paris vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et détention de stupéfiants. Il a aussi été placé en détention provisoire. L'homme avait pris la fuite lors d'un contrôle de police dans le 14e arrondissement. Il s'appelait Sey Kone, Adiba ou encore Philippe Bernardino. Tous soldats venus d'Afrique ou du Pacifique, des Antilles et qui se sont battus pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un an, vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron avait appelé les maires des communes à honorer leur mémoire. Une demande restée essentiellement lettre morte et que tente de raviver aujourd'hui Aïssata Seck. Elle préside l'Association nationale pour la mémoire des tirailleurs sénégalais.
Les honorer, ça veut dire soit nommer ou renommer des rues, ériger des stèles, donner des noms d'écoles, de frontons, etc. On a le nom d'Adiba, on a le nom de Valentin Bello, on a le nom de Mohamed Bellage. Adiba, lui, par exemple, c'était un résistant des Vosges. Il a été fusillé en 1944, en même temps que le préfet qui faisait lui aussi partie de la résistance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le préfet a obtenu tout de suite la médaille de la résistance. Adiba, lui, ne l'a pas obtenue. Il l'a obtenue à titre posthume en 2003. On a plein de belles histoires comme ça que l'on peut mettre en avant dans nos institutions, dans nos rues, dans nos noms d'école, etc. Et à mon sens, il me semble important, encore plus aujourd'hui, de mettre en avant ces histoires, d'une part pour lutter contre quelques formes de racisme et de discrimination, et surtout pour expliquer ce qu'est la diversité française d'aujourd'hui.
Et Aïssata Seck, jointe par Léo Técher, vient d'écrire une lettre à l'Association des maires de France. Et Martinez l'emporta devant Pinot. Étrange finale sur le critérium du Dauphiné cet après-midi à Megève. Grand échauffement avant le Tour de France cycliste 2020 dans 2 semaines. On pensait Thibaut Pinot en position de vainqueur après l'abandon du maillot jaune. Roglic, victime d'une chute hier. Mais le Français a été devancé dans la côte de Domancy. Et malgré une ultime et intense course-poursuite tout à l'heure, il termine deuxième avec 29 secondes de retard sur le jeune Colombien de 24 ans, Daniel Martinez. Pourtant, parti en 5e position ce matin. En gros, la douche froide pour Thibaut Pinot.
C'était une journée vraiment dure. Et, voilà, j'ai tout donné. J'étais pas dans une super journée, surtout à la fin où quand j'ai voulu accélérer, ça n'a pas répondu. Donc ouais, il y a de la déception quand même ce soir, mais j'ai fait avec les moyens du jour. Ouais, j'ai vraiment fini au mental en pensant à tout ce qu'on avait fait cette semaine. C'est sûr que voilà, quand je les ai vus partir, j'ai vraiment pris un coup sur la tête. J'ai mis un moment avant de me reconcentrer. Donc voilà, je voulais vraiment pas lâcher. Après, il y a eu pas mal de. Il y a Julien qui m'a fait un bourrelet, il y a tout le monde qui m'a encouragé, donc ça m'a vraiment boosté. Mais après, voilà, ce que je cherchais, c'est vraiment la victoire, donc il y a quand même de la déception. C'est dommage, mais bon, les jambes sont là, c'est le principal.
Thibaut Pinot, micro de Fanny Lechevestrier, a noté que le vainqueur d'étape du jour, c'est l'Américain Sepp Kuss, l'un des lieutenants de Roglic. Le deuxième de l'étape et troisième au général, c'est le Français Guillaume Martin. Chute à vélo, chute en moto aussi ce week-end sur le Grand Prix d'Autriche. Le tricolore Johann Zarco, impliqué dans un spectaculaire accident avec un pilote italien sur le circuit du Spielberg. Leurs motos ont rebondi sur la piste et se sont désintégrées, aucune blessure grave. C'est un autre Français, Quartararo, qui domine toujours le classement du championnat du monde. Et puis en Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui prend encore de l'avance en tête du championnat du monde. Le Britannique a remporté aujourd'hui le Grand Prix d'Espagne. Direction les États-Unis où le grand rendez-vous sport de la semaine, ce sont les playoffs de NBA, la phase finale de la Ligue américaine de basketball. En raison du coronavirus, tous les matchs se jouent dans une bulle sanitaire, un vaste complexe sportif situé à Disney World en Floride et qui abrite 1 millier de personnes depuis un mois, dont quelques journalistes. Impossible d'en sortir ou d'y entrer sauf dérogation. Tous les matchs vont se jouer à huis clos. En tout cas, pour l'instant, ce système de bulle semble marcher. Loïc Piala, aucun cas positif au Covid-19.
La NBA dépenserait 150 millions de dollars pour opérer sa bulle. Elle a réservé 3 hôtels de Disney World où loger ses équipes. Elle y a aussi installé des terrains d'entraînement. Un stade de baseball a lui été transformé en buanderie géante avec des dizaines de machines à laver. Au menu, en dehors du basket, golf, bowling, piscine, pêche et jeux vidéo. La dégustation de vin aurait également beaucoup de succès. Pour tromper l'ennui, les joueurs se font livrer quotidiennement des paquets par Amazon, des paquets systématiquement désinfectés. Car le protocole, détaillé dans un guide d'une centaine de pages, est strict. Tous les membres de la bulle sont testés quotidiennement. Un joueur qui s'est aventuré en dehors du périmètre sécurisé pour acheter à manger a dû retourner 10 jours en quarantaine. Une application permet même de dénoncer ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Après le premier tour de play-off, la NBA laissera entrer dans la bulle jusqu'à 4 proches par joueur, en plus des enfants, à condition que ces enfants mesurent moins de 80 cm. Et la Ligue a prévenu qu'elle ne considérait pas les agents ou les cuisiniers particuliers comme des proches. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Un retour en France, on fait un point sur vos conditions de circulation. Retour du week-end du 15 août, retour de vacances aussi pour certains. Pierre-Antoine Lefort, vous êtes au PC Mobilité de Radio France et c'est dense en ce moment dans la vallée du Rhône.
Oui, 55 km de ralentissement de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux jusqu'à Livron-sur-Drôme quand vous roulez en direction de Lyon. Environ 3h15 depuis Orange contre 1h30 d'habitude. Ça reste également chargé sur la 61 de Narbonne jusqu'à Toulouse. Vous mettez par exemple 1h entre Carcassonne et Villefranche contre une quarantaine de minutes en temps normal. On part maintenant pour la Normandie et la 13 en direction de Paris. 9 km de bouchons de Saint-Marc de Blacquerville jusqu'à Étréville. On est là un peu avant Rouen au large de Ponteau de Mer. Et puis un mot de la région parisienne sur la 6 en direction de Paris. Déjà une quarantaine de minutes le pied sur le frein depuis Évry en raison d'un accident qui vient de se produire.
Merci Pierre-Antoine. La météo de ce début de semaine en un mot mitigé. Le détail c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain matin nous allons retrouver ce qu'on appelle un ciel de traîne dans la plupart des régions, à savoir une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, délivrant quelques averses par endroit. Vous profiterez tout de même d'un bon ensoleillement de l'Aquitaine à l'Auvergne en passant par le Limousin et de la région Midi-Pyrénées au Languedoc-Roussillon, mais aussi de la vallée du Rhône à la Côte d'Azur. Peu de changements l'après-midi, prévoyez une traîne plus active avec de fréquentes averses de la région Poitou-Charentes aux frontières belges en passant par la région parisienne et des Pays de Loire à la Normandie et jusqu'en Bretagne. Ces averses prendront un caractère orageux entre les Charentes et la Normandie. Dans les autres régions, vous conserverez de belles périodes ensoleillées. Côté température, les maximales évolueront entre 21 et 31 degrés. Dans le détail, prévoyez 21 à Brest et Cherbourg, 23 à Rennes, 24 à Lille comme à Paris, Orléans et Limoges. Comptez 25 à Bordeaux, 27 à Nancy, Dijon et Biarritz, 28 à Lyon et Toulouse. Elles seront proches de 30 degrés dans le sud avec 30 à Toulon et 31 à Marseille.